direct d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide avec vous dans Le Monde Aujourd'hui, en ce vendredi 17 décembre 2021, une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. À la une de l'actualité ce soir, l'Éthiopie accuse de néocolonialisme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après sa mise en garde contre la violence généralisée qualifiée de dangereuse pour la région. En Tunisie, manifestation dans la capitale, soit pour soutenir ou pour critiquer le président Kais Saied à l'occasion de l'anniversaire de la révolution. À Madagascar, 5 des 20 prévenus, dont 2 Français, ont été condamnés jusqu'à 20 ans de travaux forcés. Ils étaient accusés dans une tentative de coup d'État. Moscou dévoile ses revendications pour limiter l'influence militaire de l'OTAN et des États-Unis, mais la Maison-Blanche prévient qu'il n'y aura pas de pourparlers sans les alliés. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. L'Éthiopie accuse de néocolonialisme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui affirme pour sa part que toutes les parties au conflit dans le pays poursuivent leurs exactions. Ce conseil, qui va démarrer une enquête internationale, met en garde contre une violence généralisée aux conséquences majeures pour la région. Le point avec Rosine Mounezero.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé vendredi lors d'une session spéciale de créer une commission internationale d'experts chargée d'enquêter et de réunir des preuves sur les exactions commises dans le cadre du conflit en Éthiopie. Une résolution proposée par l'Union européenne a été adoptée par 21 voix pour, 15 contre, dont la Chine et de nombreux pays africains, et 11 abstentions. Le danger d'une montée en puissance de la haine, des violences et des discriminations est très élevé et pourrait dégénérer en violence généralisée, a affirmé Madame Nadal Nashif, haute commissaire adjointe aux droits de l'homme. Le 2 novembre, le gouvernement éthiopien a décrété un état d'urgence qui a entraîné l'arrestation de milliers de Tigréens, dont des membres du personnel de l'ONU, a souligné Madame Al-Nashif. Le multilatéralisme est pris en otage par une mentalité néocolonialiste. L'Éthiopie est prise pour cible et montrée du doigt pour avoir défendu un gouvernement démocratiquement élu, a déclaré l'ambassadeur éthiopien Zenebe Kebede pendant les débats.
Au moins 199 personnes ont été tuées dans des conflits tribaux au Darfour. C'est ce que rapportent aujourd'hui des médecins qui appellent Khartoum à mettre un terme à l'effusion de sang qui se poursuit dans cette région du Soudan, difficilement accessible aux humanitaires. Depuis début octobre dernier, des heurts à l'arme automatique ont déchiré le Darfour, ravagé par une guerre meurtrière qui a fait depuis 2003 au moins 300 000 morts et 5 millions de déplacés selon l'ONU. En Tunisie, des centaines d'opposants et de partisans du président Kais Saied ont manifesté dans la capitale, la Tunis, aujourd'hui, dans un contexte de tension exacerbée à l'occasion du 11e anniversaire de la révolution de 2011. Les précisions avec Claire Morin-Gibourg.
Ce vendredi à Tunis, d'un côté, les opposants scandaient « Abat le coup d'État !» De l'autre, les partisans du président affichaient leur soutien en criant « Tous avec Kais Saied !» Ces manifestations surviennent quelques jours après que M. Saied a prolongé d'un an le gel du Parlement, dominé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, jusqu'à la tenue de nouvelles législatives en décembre l'année prochaine. Le président tunisien veut au préalable réformer la constitution de 2014, qu'il juge trop déséquilibrée en faveur du Parlement. Des amendements constitutionnels et à la loi électorale seront soumis à un référendum le 25 juillet. Les États-Unis ont salué dès mardi un calendrier prévoyant une voie vers la réforme politique et des élections parlementaires. L'Union européenne a qualifié aujourd'hui les annonces de M. Saied d'étape importante vers le rétablissement de la stabilité et de l'équilibre institutionnel, tout en appelant au respect de l'acquis démocratique, de la séparation des pouvoirs et des libertés.
Le verdict est tombé à Madagascar. Accusés d'avoir voulu assassiner le président André Radzouel, deux Français ont été condamnés aujourd'hui à 10 et 20 ans de travaux forcés. Ils font partie des 20 prévenus poursuivis dans l'affaire du coup d'État présumé contre le chef de l'État. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Arrêté en juillet et soupçonné d'une opération répondant au nom de code Apollo 21, 20 personnes ont comparu dans ce procès sous haute surveillance policière. Les inculpés appartenaient à une organisation criminelle cherchant à commettre un attentat contre le président Radjoel et ont contribué à mettre sur pied le projet grâce à des mails, des armes et de l'argent saisi lors de perquisitions, selon l'avocat général Arsène Rab. Le tribunal a infligé une peine d'emprisonnement assortie de travaux forcés de 20 ans à Paul Rafa Noaran, un franco-malgache qui connaît bien le président Radjoel, dont il a été un conseiller, et de 10 ans à Philippe François, ancien colonel de l'armée française reconverti dans les affaires. La défense a de son côté déclaré que les liens entre les accusés n'étaient pas solidement établis et que la présomption d'innocence n'avait pas été respectée en raison de nombreuses fuites dans la presse.
En Côte d'Ivoire, une grève des dockers paralyse le port d'Abidjan, maillon essentiel des importations et exportations du pays. Les ouvriers réclament l'application d'un décret améliorant leurs conditions de travail. La grève a débuté depuis minuit dans les deux ports de Côte d'Ivoire, indique Jonas Yapi, président de la cellule communication des dockers du pays. Le deuxième port du pays, à San Pedro, est également concerné, dit-il. Des dockers affirment gagner moins de 25 000 francs CFA par mois. La direction du port d'Abidjan a déclaré ce matin être en réunion avec les syndicats des dockers. En Guinée, l'aéroport international de Conakry a été rebaptisé aéroport international Ahmed Sékou Touré, du nom du premier président du pays. Ahmed Sékou Touré a été à la tête de la Guinée depuis son indépendance en 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Héros tiers-mondiste, son régime est responsable de la mort ou de la disparition de 50 000 personnes. D'après des organisations des droits humains, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis septembre dernier, a récemment restitué à sa famille le vaste domaine, une résidence saisie par une autre junte arrivée au pouvoir après sa mort il y a plus de 30 ans. En Afrique du Sud, le variant Omicron a fait exploser les cas d'infection Covid-19, mais pour l'instant, hospitalisations et décès demeurent moins nombreux que lors des précédentes vagues, selon les autorités. Le pays a enregistré le plus grand nombre d'infections qu'il ait jamais connu au cours de la pandémie, en raison de la propagation extrêmement rapide d'Omicron, indique Michel Groom de l'Institut sud-africain des maladies transmissibles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a dévoilé aujourd'hui des propositions de traité pour limiter drastiquement l'influence américaine et de l'OTAN dans son voisinage et a souhaité l'ouverture dès demain de pourparlers afin d'empêcher une escalade des tensions en Europe. Mais la Maison-Blanche prévient qu'il n'y aura pas de discussion sur la sécurité européenne sans ses alliés et partenaires européens. Davantage avec John Lydon.
Ces propositions sont publiées sur fond des crispations russo-occidentales croissantes autour de l'Ukraine, pays voisin de la Russie. Américains et Européens accusent Moscou d'y préparer une offensive militaire. Les deux textes présentés vendredi et appelés traités entre les États-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité et accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres de l'OTAN prévoient d'interdire tout élargissement de l'Alliance et l'établissement de bases militaires américaines dans les pays de l'ancien espace soviétique. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a proposé l'ouverture des négociations dès samedi 18 décembre, souhaitant qu'elles aient lieu à Genève. En réponse, la Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole, Jen Psaki, a prévenu qu'il n'y aura pas de discussion sur la sécurité européenne sans ses alliés et partenaires européens, ajoutant que l'exécutif américain avait vu les propositions dévoilées par Moscou.
Pour revenir au Covid-19, les autorités sanitaires américaines ont recommandé hier soir à tous les adultes de se faire vacciner contre la maladie avec Pfizer et Moderna plutôt qu'avec Johnson & Johnson en raison du risque de thrombose lié au vaccin de J&J. La décision annoncée par les centres de prévention et de lutte contre les maladies porte un coup dur au remède de Johnson & Johnson, auquel 9 décès ont été attribués aux États-Unis. Au Royaume-Uni, accusé d'avoir participé à des fêtes en plein confinement, le Premier ministre Boris Johnson a subi une sévère défaite hier soir lors d'une législative partielle sur fond de flambée épidémique due au variant Omicron. Le pays a connu un pic de contamination avec plus de 88 000 nouveaux cas hier. Le chef du gouvernement britannique a dit assumer la responsabilité de la défaite de son parti conservateur. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza ce soir.
Le conseil d'administration de la BAD a approuvé une ligne de crédit de 70 millions d'euros et une prise de participation de 24 millions d'euros au profit de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Cette ligne de crédit permettra de soutenir les entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en particulier dans le secteur créateur d'emplois, notamment l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé, l'information et les télécommunications durement touchées par la pandémie de Covid-19. La Banque mondiale a annoncé mercredi que l'Association internationale de développement IDA s'est dotée un financement record de 93 millions de dollars pour aider les pays à faibles revenus à faire face à la crise du Covid et à stimuler la croissance économique. Il s'agit de la plus grande reconstruction de ressources jamais accordée à l'IDA, qui accorde des prêts à 74 pays dont la plupart se trouvent en Afrique. Plusieurs grands groupes de grande distribution se sont engagés à retirer des produits à base de bœufs soupçonné d'être lié à la déforestation au Brésil. Une enquête menée et publiée par l'ONG Reporters Brasil accuse 3 industriels brésiliens spécialisés dans la viande de participer à la déforestation dans certaines régions du pays. L'ONG soutient que certains produits liés à la déforestation se retrouvent dans les supermarchés européens sous la forme de bœufs séchés, de cornbeef ou de viande fraîche.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec au micro Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de foot se rapproche à grands pas et certaines sélections font déjà leur programme de préparation. Le cas de la Guinée et du Sénégal, selon le site Afrique.com. Les deux pays qualifiés pour la 33e édition de cette compétition vont se préparer à Kigali au Rwanda. Le Sélection nationale, qui est désormais dirigé par Kaba Diawara, livrera 2 matchs amicaux contre l'équipe rwandaise, le 2 et le 6 janvier. Mais déjà le 4, les Amavubi affronteront les Lions de la Teranga, vice-champion d'Afrique. A rappeler que la Guinée et le Sénégal sont logés dans le même groupe avec le Zimbabwe et le Malawi. La CAN, c'est du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun et à 3 semaines de son coup d'envoi. Les autorités s'attellent pour une meilleure organisation. Ainsi, le gouvernement camerounais et la CAF ont enfin dévoilé les contours du protocole sanitaire durant tout le tournoi, de quoi rassurer les joueurs évoluant en Europe. Pour rappel, certains clubs européens, mécontents du manque d'un protocole sanitaire clair, ne veulent pas libérer leurs joueurs pour cette grande messe du foot africain. Et sur place à Yaoundé, Véron Mossengo, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, a tenu à clarifier les choses lors d'un point de presse.
S'agissant du protocole de santé, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant, internationalement reconnu, pour tester les joueurs et l'encadrement des équipes. On va mettre aussi un dispositif important, un avion hôpital qui sera ici en permanence. Au cas où certains cas ne peuvent pas être traités rapidement ici, on peut l'amener et l'évacuer ailleurs. Donc ça, c'est un dispositif qu'on n'a jamais eu. Alors les gens qui disent qu'il y a des problèmes de Covid ici, il faut reporter les compétitions, ça on ne comprend pas parce que j'ai des chiffres ici. Dans le monde, il y a plus de 2 millions de cas. Dans ces 2 millions en Asie, 30,6%, en Europe, 29%, et en Afrique, c'est 3,3%. S'agissant de l'entrée des supporters dans le stade, vous voulez entrer au stade, il faut être vacciné. Vous ne voulez pas être vacciné, vous regardez à la télé.
Pour finir, Mossengo a précisé qu'il n'y a alors plus de raison valable de retenir les joueurs à quelques semaines du match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso.
Merci Élisée. Continuez d'écouter Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Depuis quelques semaines, les habitants de Titao, ville du nord du Burkina Faso, fuient en masse. Et ceux qui sont restés appellent les forces de l'ordre à l'aide. D'après les témoignages, des groupes djihadistes encerclent la ville où se sont réfugiés des milliers de déplacés internes qui ont abandonné les localités environnantes. Bagasikoura a joint un fonctionnaire de l'État dans la ville. Il préfère garder l'anonymat. Nous l'écoutons.
Il faut dire qu'actuellement, la ville de Titao ressemble véritablement à un silence de cimetière, hein, parce que ça ne va pas, c'est le désarroi total. Pratiquement, tous les fonctionnaires sont partis, il n'y a pas de, aucun centre de santé ne fonctionne. Donc, la moindre maladie emporte la population. Les enseignants sont partis, toute l'administration jusqu'au haut commissariat, tous les chefs de service sont partis. On ne parle plus, il n'y a plus de symbole d'État à Titao. Même jusqu'aux forces de l'ordre, la police est partie il y a quelques jours de cela. Et ce soir, aujourd'hui, on vient d'assister au départ en tant que la gendarmerie. Actuellement, le poste de contrôle de la gendarmerie est occupé par les VDP. Ceux qui sont à Titao aujourd'hui, c'est ceux qui ne savent pas où aller.
Vous parlez de VDP, ce sont les volontaires civils. C'est eux seuls qui sont là et pas les forces de l'État?
Non, 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 pas les forces de l'État. Ce sont les civils, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie qui occupent le poste de la gendarmerie actuellement.
Et que disent les officiels s'ils ont dit quelque chose du tout?
Officiels, jusque-là, nous n'avons pas du tout. Nous n'avons pas un message du côté des officiels. À partir du moment où les premières autorités de la province, ceux-là qui devaient s'adresser à la population, notamment le haut commissaire, personne n'est là. Donc, on ne sait vraiment pas à qui écouter. Personne, nous n'avons pas un message d'une autorité quelconque.
Et est-ce qu'on a les nouvelles des groupes armés là-bas? Est-ce que vous les voyez?
Oui, si, c'est les groupes armés, Titao est sous le feu des groupes armés. Ils sont là, ils sont pratiquement, Titao est pratiquement encerclé. Titao est pratiquement encerclé. Il est difficile actuellement d'être sorti de Titao à 5 km. Donc, nous avons une commune de Titao, une ville qui a été tombée sous le feu de ces gens-là, il y a 3 jours de cela. Mais à l'heure où nous parlons, les corps sont toujours posés, personne ne peut y accéder. À l'heure où nous parlons, cela fait près de 4 jours aujourd'hui que la commune de Wani est tombée sous le feu de terrorisme. Mais les corps sont les victimes, sont posées jusqu'à l'heure, je vous parle. Décomposées, personne ne peut y accéder.
Mais il y a eu des rumeurs ces derniers temps que l'armée avait fait un déploiement de renforts.
Effectivement, ils sont arrivés juste avant-hier. Hier, nous les avons vus, mais aujourd'hui, ils sont repliés. Il y a une partie qui a replié sur Yoyuya, une autre partie a continué sur Solé. Mais dans un premier temps, c'est vrai, nous les avons arrivés avant-hier, hier, nous les avons vus dans la ville, mais aujourd'hui, ils se sont contentés de replier.
Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des patrouilles? Ils ont essayé d'échanger avec la population ou ils étaient cantonnés sur une base?
Oui, des patrouilles, nous les avons observés faire des patrouilles avec les VDP. Ils sont allés dans la commune, donc je vous faisais 4 jours sur la commune de Winigui pour constater les dégâts causés par l'attaque terroriste. Ils sont revenus, c'est de retour de cette patrie hier que leur véhicule ambulance est tombé à sauter sur une mine. Hier, donc aujourd'hui, en tout cas, dès ce matin, ils se sont contentés de replier.
Un fonctionnaire joint dans la petite ville de Titao, dans le nord du Burkina.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Il y a 2 jours, vous le savez, l'UNESCO a inscrit le tsebboudienne, ce plat populaire au Sénégal, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le dossier de demande d'inscription du plat national a été introduit en octobre 2020 par le ministère sénégalais de la Culture. C'est donc la fête en ce moment dans de nombreuses cuisines et restaurants au Sénégal, comme nous allons l'entendre avec Claire Morin-Gibourg.
a 53 ans, Tiani Ngom est la patronne d'un petit restaurant dans un quartier populaire de Dakar. Elle s'est levée tôt pour se ravitailler au marché en ingrédients nécessaires à la cuisine du Tieboudien, qui signifie « riz au poisson » en Wolof. Ce plat populaire a toujours été au menu de son restaurant depuis 25 ans. Tiani Ngom.
Je prépare le Tieboudien avec joie et enthousiasme. Je suis de Saint-Louis et nous savons tous que le Tieb vient de Saint-Louis. C'est pourquoi je le prépare toujours avec fierté. Je le prépare tous les jours.
L'origine du Tieboudien est associée à la ville de Saint-Louis dans le nord du pays. Ex-capitale de l'Afrique occidentale française, Saint-Louis est déjà inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO. Composée de riz, de poisson et d'une variété de légumes, préparée avec ou sans tomate, le Tieboudien est servi comme plat de déjeuner dans la plupart des familles et dans les restaurants du pays. Ousmane Sarr, comme presque tous les Sénégalais, mange du Tieboudien au déjeuner.
Si l'UNESCO a décidé de le faire ou bien, c'est notre fierté parce que c'est aussi en quelque sorte de rendre hommage à nos parents, à nos mamans, hein, qui nous ont consacré à bien le faire, hein, jusqu'à maintenant que chaque personne puisse le goûter et se rendre compte que voilà, ça a été très bien fait. C'est en quelque sorte rendre hommage à nos mamans.
Le Tieboudien répond aux critères requis par l'UNESCO. Pour l'organisation, ce plat est une chose vivante qui respire, transmise de génération en génération et qui a un sens dans la vie des gens. Cette reconnaissance réjouit particulièrement Youssouf Ndiaye, un autre client du restaurant.
Cela me remplit d'une grande fierté pour les Sénégalais car le riz au poisson est originel du Sénégal. Nous sommes connus dans le monde entier pour ce plat. C'est une victoire pour le Sénégal. J'en suis très heureux.
Une fierté partagée par la cuisinière Tiani Ngom qui affirme que désormais les gens viendront au Sénégal non seulement pour déguster le Tieboudien, mais aussi pour apprendre à le cuisiner. Le dossier de candidature note que la recette et les techniques sont traditionnellement transmises de mère en fille, mais que les hommes commencent à s'y mettre. Et de conclure, ce plat, considéré comme une affirmation de l'identité sénégalaise, est de plus en plus consommé dans presque tous les pays de la sous-région, notamment en Mauritanie, au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Le Nigeria et le Ghana contestent la paternité avec leur jollof rice. Les Sénégalais, d'un air moqueur, répondent souvent « Depuis quand le Nigeria ou le Ghana, ou des régions qui s'appellent jollof ?» Une province du Sénégal, d'où sont venus les Wolof, l'ethnie majoritaire au pays du Tieboudien.
Et maintenant, gros plan sur la politique étrangère des États-Unis. Le président Joe Biden est entré en fonction avec le message « L'Amérique est de retour ». Il a promis que la diplomatie remplacerait la puissance militaire en tant que principal instrument de la politique étrangère du pays. Patsy Vidakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point sur la politique étrangère du président américain durant sa première année de mandat. Le récit est de Michel Joseph.
La politique étrangère des États-Unis a été marquée par le retrait chaotique d'Afghanistan, largement considéré comme le plus grand échec de la première année au pouvoir du président Joe Biden. Michael Kugelman s'occupe de l'Asie du Sud au Wilson Center.
Le terrorisme s'est intensifié et la prise de contrôle des talibans a conduit à des sanctions qui ont placé l'Afghanistan dans une position où il fait face à une crise humanitaire aiguë qui pourrait bien conduire à une famine. Et je pense que ce retrait précipité et chaotique a eu des conséquences.
Ce retrait est conforme à l'objectif de l'administration de réduire l'engagement militaire au Moyen-Orient. Mais des défis subsistent, notamment les tensions entre Israéliens et Palestiniens et l'échec des efforts pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien dont l'administration Trump s'est retirée en 2018. Pourtant, après 4 années avec l'Amérique d'abord, sous Donald Trump, le message de Joe Biden est « L'Amérique est de retour ».
Stand up for our allies and our friends and oppose attempts Nous défendons nos alliés et nos amis et nous nous opposerons aux tentatives des pays plus forts qui dominent les plus faibles, que ce soit par des changements de territoire, par la force, la coercition économique, l'exploitation technique ou la désinformation. Mais nous ne cherchons pas, répétons-le, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides.
Joe Biden a tracé des lignes entre les démocraties et les autocraties. Il a rallié plus de 100 pays lors d'un récent sommet virtuel pour la démocratie à l'exclusion des présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine. Stacy Goddard, professeure de sciences politiques au Wesley College.
Coopération mondiale autour de problèmes complexes liés à l'environnement et aux pandémies qui nécessite une coopération avec la Chine, qui nécessite une coopération avec la Russie. Mais d'un autre côté, en essayant également de garder ce thème, des États-Unis vont coopérer avec les démocraties et les États-Unis voient un défi autoritaire comme un défi important. An authoritarian challenge
as a significant challenge. La Chine désormais un adversaire majeur en termes de puissance militaire et d'influence géopolitique est la priorité de la politique étrangère de Biden. La Russie, un autre rival, ne reste pas sur la touche, mobilisant des dizaines de milliers de soldats le long de la frontière avec l'Ukraine. Andrew Lawson, du programme Europe, Russie et Eurasie, du Centre d'études stratégiques et internationales.
La Russie n'est pas un problème résolu. C'est toujours un acteur majeur qui a des intérêts divergents avec les États-Unis et nos alliés européens. Et donc, il ne peut vraiment pas être mis de côté.
Un autre problème non réglé, c'est la Corée du Nord, où l'administration n'est pas disposée à conclure un accord, à moins que Kim Jong-un ne s'engage à mettre fin à son programme d'armes nucléaires.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une série de vols du genre rapide et de masse dans des magasins américains pendant les fêtes de fin d'année a conduit à un renforcement de la sécurité et à une multiplication des accusations. Le reportage de Matt Debo est relaté par Rosine Munezero.
C'est la saison des achats de fin d'année, mais dans le centre-ville de San Francisco, il y a moins de clients, plus de policiers et des fenêtres fermées avec du contreplaqué. Tout cela est le résultat d'une récente flambée de vols effectués en groupe. Dans cette banlieue de San Francisco, on estime que 80 personnes ont convergé pour voler des produits de luxe. Un incident similaire a eu lieu à Chicago, Los Angeles et à Union Square de San Francisco. Les directeurs de magasins et leurs employés sont inquiets, selon Rachel Michelin, présidente de l'Association des commerçants détaillants de Californie.
Le crime organisé dans le commerce de détail est un problème auquel nous sommes confrontés depuis des années. Ce n'est pas nouveau, mais en général, nous n'avons jamais vu ce niveau de violence en plein milieu de la journée avec les consommateurs, avec les employés dans les magasins. Cela a vraiment amené les choses à un autre niveau.
S'adressant à ABC News après de tels vols à Union Square, écoutons le chef de la police de San Francisco, William Scott.
Nous devons faire en sorte qu'il soit difficile pour les gens de faire ce qu'ils ont fait. Se garer juste à côté d'un commerce, briser les vitres, entrer et faire disparaître tout ce qu'ils peuvent emporter.
À la suite de ces incidents, la présence policière a considérablement augmenté. Les magasins ont également ajouté du personnel de sécurité, mais de nombreux magasins conseillent aux employés de ne pas intervenir dans un crime pour des raisons de sécurité. Une politique que certains remettent en question. La Californie est l'un des 39 États qui, au cours des deux dernières décennies, a fait du vol un délit passible d'une peine de prison. Certains estiment que la tentative de réforme du système de justice pénale pourrait encourager les voleurs. Poussés par la tradition, les acheteurs se présentent toujours déterminés à être joyeux, tout en restant méfiants.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voaafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir et toute cette semaine. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
May certain do your door, yeah, mom, yeah. May certain do your door, yeah, mom.